accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est une figure exceptionnelle, un exemple dont le gouvernement allemand aurait bien besoin pour montrer qui sont les migrants qui demandent l'asile dans le pays. Nujin Mustafa n'a que 17 ans, mais démontre par son parcours que rien n'est impossible. Cette adolescente syrienne est née à Alep, elle a fui la guerre en passant par la Méditerranée et les Balkans, mais Nujin est atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, elle a donc parcouru les 2000 km de son périple en fauteuil roulant. De cette épreuve, elle a tiré un livre inspirant, publié en Allemagne et intitulé tout simplement « Nujin ». Bonjour Julien Méchaussier.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Vous avez lu pour nous cet incroyable témoignage. L'auteur, Nujin Mustafa, vit désormais en sécurité à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne.
Oui Frédéric, un périple qui a pris fin pour Nujin en septembre 2015. La jeune Syrienne est arrivée en Allemagne alors au plus fort de la crise des réfugiés ici. Et avec ce témoignage présenté lors de la grande foire du livre de Francfort cette année, Nujin a déclaré vouloir prouver que l'Allemagne et sa chancelière ont eu raison d'ouvrir leurs portes aux réfugiés. Mais aussi à travers son histoire de jeune fille en fauteuil roulant avec son sourire et sa joie de vivre, offrir un visage humain aux réfugiés. Comme elle a dit elle-même, que les réfugiés ne soient plus réduits à des chiffres.
Cet ouvrage, Nujin Mustafa l'a écrit avec la journaliste britannique Christina Lamb, qui avait déjà coécrit le livre de Malala Yousafzai, menacée de mort par les talibans et prix Nobel de la paix.
Et c'est même Malala qui a impulsé l'idée d'un livre sur Nujin. Pour la militante pakistanaise des droits des femmes, la jeune kurde syrienne est une source d'inspiration, son héroïne même, comme elle l'a déclaré. Christina Lamb a donc contacté Nujin au début de l'année et l'a convaincue de relater en détail son périple. Le livre commence donc avec les premières manifestations contre le régime de Bachar el-Assad, la répression sanglante, l'engrenage infernal de la guerre et la montée en puissance de l'État islamique. Puis c'est la fuite en Turquie avec sa famille et comme tant d'autres réfugiés syriens, la traversée jusqu'en Grèce sans ses parents, trop âgés pour tenter cette aventure incertaine. Nujin raconte avec précision la préparation de cette traversée, comme son oncle qui est à la barre du bateau pneumatique qui a appris un des rudiments de navigation grâce à des vidéos sur YouTube. Et Nujin qui doit convaincre les autres passagers de ne pas jeter son fauteuil roulant par-dessus bord pour délester leur embarcation qui prend l'eau.
S'ensuivent, Julien, la route des Balkans avec les passeurs sans scrupules, les camps, la prison même et les frontières qui se ferment.
Et ces scènes, Frédéric, dont on se souvient tous, de policiers hongrois envoyés par Viktor Orban qui aspergent les migrants de gaz lacrymogène, eh bien Nujin les a vécues depuis son fauteuil roulant et elle découvre alors une autre Europe. Pas celle dont elle avait rêvé, mais il y a aussi des moments plus beaux que vit Nujin, décrit dans le livre, des instants de solidarité comme ces autres migrants qui la portent dans son fauteuil pour passer les obstacles, et sa sœur, bien sûr, qui pousse son fauteuil. Et c'est sur cette route des Balkans que la jeune fille devient une célébrité. Elle est interviewée notamment par la BBC qui diffuse alors un long reportage sur son odyssée.
Il faut dire que Nujin a un argument médiatique de poids, elle parle très bien anglais.
Oui, faute d'école qui pouvait l'accueillir à Alep, Nujin a appris l'anglais à la maison, en regardant notamment la célèbre série américaine Des jours et des vies. Et dans le chaos qui règne alors en cet été 2015 sur la route des Balkans, eh bien Nujin détonne avec sa foi en un avenir meilleur, sa bonne humeur. Elle qui répète inlassablement aux journalistes qu'elle veut se rendre en Allemagne pour devenir astronaute.
Et aujourd'hui, Nujin vit avec les membres de sa famille dans une petite ville entre Cologne et Bonn. Elle va à l'école et fait même du basket.
Une vie enfin presque normale de jeune fille de 17 ans, presque normale puisque Nujin est toujours en attente d'une réponse concernant sa demande d'asile. Elle a appris rapidement l'allemand et s'habitue à la culture de son nouveau pays. Pas toujours facile. Nujin se moque d'ailleurs avec beaucoup de charme à la fin du livre des Allemands amoureux de la ponctualité qui râlent dès que le train a 2 minutes de retard. Mais elle souhaite rester ici, passer son baccalauréat et étudier la physique car Nujin n'a pas oublié son rêve de vivre astronaute.
Merci Julien Méchaussier. À très bientôt sur Accent d'Europe.
À bientôt Frédéric.
Ce sont les deux candidats pro-russes qui ont été réélus respectivement ce week-end au poste de président de la République en Bulgarie et en Moldavie. Dans ce dernier petit pays, l'accord d'association avec l'Union européenne est désormais bien mal en point. Faut-il voir dans ce vote un rejet de l'UE ou un rejet de la classe politique corrompue ? En tout cas, il est clair que les électeurs, qui n'ont été que 53% à se déplacer, n'ont plus confiance. L'oligarque Vlad Plahotniuc, qui a pendant longtemps soutenu les partis pro-européens, est la face la plus visible de ce mauvais mélange des genres entre finance et politique. Son portrait signé Sébastien Gobert.
Il est partout et sur toutes les lèvres. À 50 ans, Vladimir Plahotniuc est un personnage richissime qui contrôlerait d'énormes parts de l'économie moldave, mais aussi toutes les branches du pouvoir, ou presque, le politique, le judiciaire et la sphère médiatique. Quand les politologues parlent de la Moldavie, ils font référence à un État capturé, et c'est Vladimir Plahotniuc, le ravisseur. Associé à plusieurs personnalités mafieuses dans les années 90, il aurait débuté sa carrière dans plusieurs trafics, notamment le commerce sexuel de jeunes filles. Vladimir Plahotniuc se serait aussi spécialisé dans l'usage de caméras cachées pour filmer les ébats intimes de ses opposants politiques et ainsi les faire chanter. Rien de tout cela n'a été prouvé officiellement, mais de telles allégations contribuent à entourer l'homme d'une réputation sulfureuse. Ce qui est sûr, c'est que l'oligarque a été reconnu coupable par la Haute Cour de justice de Londres de prise de contrôle par la force de plusieurs entreprises. Entre rumeurs et accusations, cette décision sert de preuve irréfutable des pratiques douteuses de Vladimir Plahotniuc. Fort d'une fortune d'au moins 300 millions d'euros, bâti grâce à des méthodes peu recommandables, il s'est investi personnellement en politique, en naviguant entre les forces en présence. Après avoir financé les communistes pro-russes, il s'est hissé à plusieurs hautes fonctions de l'État au sein du Parti démocrate, un des partis prétendument pro-européens, en fait une plateforme qui a entretenu une corruption d'État endémique au cours des dernières années. Vladimir Plahotniuc, le ravisseur désigné de l'État moldave, en est aussi la personnalité la plus impopulaire. Rares sont ceux qui souhaitent s'afficher en sa compagnie et il s'est effacé de la vie politique. Mais comme la récente élection présidentielle l'a démontré, il est bien là, en coulisses. La Moldavie souffre depuis des années d'un mal-être existentiel qui dépasse évidemment la seule personnalité de Vladimir Plahotniuc, mais il en est indéniablement un des symptômes les plus visibles.
Comment lutter contre le chaos automobile qui étrangle les grandes villes ? Pour une fois, on ne parle pas d'objectifs à l'horizon de 20 ou 50 ans, mais d'un projet concret pour citadins sans voiture dans quelques villes comme Turku, en Finlande, Stockholm, en Suède, Madrid, en Espagne ou Munich. En Allemagne, dans le quartier de Domag Park, le projet Civitas Excentrique, financé par l'UE, a déjà fait bouger les lignes de conduite. Reportage signé Pauline Curté.
À 42 ans, Sigmar Munch ne possède pas de voiture et ce conseiller en informatique en est fier. Depuis près d'un an, il loue en trois pièces dans le Domag Park, un quartier tout neuf de Munich, dont certains immeubles ne sont d'ailleurs pas encore terminés. S'il a déménagé ici, c'est justement pour profiter du projet pilote Civitas Excentrique.
C'est tellement simple. Si j'ai besoin d'une voiture, je vais sur mon ordinateur et je regarde si l'un des cinq véhicules mis à disposition dans le garage souterrain est disponible. C'est le cas le plus souvent. Je la réserve et voilà, je peux m'en servir. Et j'ai des tas d'autres possibilités. Les transports en commun, bien sûr. Mais je peux aussi louer, par exemple, un vélo ou un vélo électrique quand les distances sont un peu longues.
Au pied de l'immeuble de Sigmar se trouve un boîtier que chaque habitant du quartier peut ouvrir grâce à une carte magnétique. Dans le boîtier se trouvent les clés de la voiture ou du cadenas du vélo qu'il a réservé sur Internet. La ville de Munich a prêté les vélos garés sous un abri couvert construit spécialement pour le projet. Les voitures, elles, sont mises à disposition par Stadt Auto, une entreprise munichoise d'autopartage qui dispose de stations partout dans la ville. Sauf qu'au Domag Park, la station se trouve dans le garage même des locataires, difficile de faire plus flexible. Le service n'est cependant pas gratuit. Les habitants du Domag Park doivent débourser environ 65 centimes d'euros par kilomètre, mais ils n'ont pas à payer le carburant. Pour Reinhold Petrich, un autre habitant du quartier, c'est tout bénef.
J'ai une femme et trois enfants, et pourtant, quand on habite ici, on n'a pas besoin de voiture. Je me sers des véhicules de Stadtauto assez régulièrement, parfois pour le travail ou alors pour des raisons personnelles. Mais le plus souvent, on essaie de voir quelles sont les alternatives à la voiture, et ici, il y a vraiment le choix.
Pour le moment, le Domac Park compte 800 appartements occupés, mais seulement 400 places de stationnement environ ont été construites. Les économies ainsi réalisées permettent de financer une carte gratuite de transport en commun pour les habitants du quartier. Autre source d'économie, des panneaux solaires posés sur les toits et les murs des immeubles qui alimentent les batteries des vélos électriques et des voitures hybrides. Des idées comme celle-ci, le quartier en déborde. Thomas Kremer, qui habite sur place et travaille pour Vogueno, la société coopérative à l'origine du Domac Park, donne un exemple de piste à suivre.
Vous voyez les voitures garées dans les rues. La plupart d'entre elles n'appartiennent pas aux gens du quartier. Ce sont les employés des bureaux du quartier d'à côté qui s'en servent. Nous voulons voir le moins de voitures possible dans nos rues. Alors, quand les travaux seront terminés, nous voulons limiter la durée de parking ici à 2 heures et en contrepartie proposer aux automobilistes, par l'intermédiaire d'une application, de louer nos places libres dans les garages souterrains.
L'Union européenne a débloqué en tout 20 millions d'euros pour le projet Civitas Excentric. Il doit durer 4 ans. Rien ne dit qu'il sera prolongé, mais Thorsten Belter, chargé de projet Civitas Excentric à la ville de Munich, espère que les autorités sauront en tirer les leçons pour l'appliquer à plus grande échelle.
Munich est une ville qui grandit très vite. Il faut absolument que nous trouvions une solution au chaos routier que l'on subit depuis 10 ans. Il est donc urgent de faire diminuer la possession de voitures sur une base volontaire. Et je verrai bien ce projet prendre forme dans d'autres quartiers de la ville. Le but, c'est justement de montrer qu'il est possible de prendre de telles mesures dans une grande ville, mais aussi de se nourrir des erreurs que nous allons sûrement faire lors de cette expérimentation.
Pour le Domac Park, le premier véritable défi va être de faire face à la multiplication du nombre de ses habitants. L'an prochain, quand la construction du quartier sera terminée, ils seront 2 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Et tous ces futurs locataires disent être intéressés par l'offre de mobilité du quartier.
Après la bulle financière, la bulle touristique et immobilière, c'est une des craintes de l'Islande, petite île de 330 000 habitants, qui connaît un succès phénoménal auprès des randonneurs du monde entier. Alors que le pays vivait principalement de la pêche et des industries de l'aluminium, le tourisme est devenu ces dernières années le premier secteur d'activité. Sur place, Margot Emmerich.
Entre ces geysers, ces fjords et ces volcans, pas étonnant que la terre qu'on surnomme là-bas le bout de glaçon soit devenue l'égérie des randonneurs du monde entier. Pourtant, s'il semble aujourd'hui classique de partir en vacances en Islande, il y a encore 5 ans, la destination restait assez méconnue des touristes. En 2010, ils étaient un peu moins de 500 000 à se rendre sur l'île, contre 1,7 million de personnes estimées pour l'année 2016. Lors de certains pics d'affluence, notamment l'été, il n'est d'ailleurs pas rare de compter plus de 300 000 touristes présents en même temps sur le territoire, soit davantage que la population totale du pays. En 3 ans, le secteur touristique est ainsi devenu la première source de revenus devant les industries de la pêche et de l'aluminium, des ressources historiques en Islande. Alors, le côté positif, c'est bien sûr le redressement économique suite à la profonde crise financière qui avait ébranlé le pays en 2008, s'est plongé une grande partie de la population dans la faillite. Sauf que voilà, en Islande, personne n'avait vu venir un tel phénomène et les transformations liées au tourisme de masse commencent à inquiéter les habitants. Depuis 2010, 100 nouveaux tours opérationnels sont apparus et 19 hôtels sont actuellement en construction dans le centre de Reykjavik. Sans compter que pour chaque nouvelle installation, les Islandais voient leur loyer et le coût de la vie exploser. L'objectif désormais pour éviter la création d'une nouvelle bulle, c'est donc de sortir de l'urgence pour construire une industrie du tourisme pérenne. Outre les dégâts sur l'environnement, une question reste encore en suspens, celle de la prise en charge des infrastructures par les différentes municipalités du pays.
Les nutritionnistes de la planète n'ont pas fini de vanter les vertus du régime méditerranéen ou crétois, cette alliance très saine de légumes poisson et d'huile d'olive. Mais dans le pays qui l'a vu naître, en Grèce, le régime est mis à mal par la modernité. Les repas se prennent de moins en moins en famille. Selon le président de la Fondation internationale de la diète méditerranéenne, la consommation de ces produits frais et bons pour la santé a diminué de 70% au cours des 30 dernières années. Comment les retrouver ? La crise et le besoin d'acheter des produits simples et peu chers pourraient être un argument. À Athènes, Charlotte Stivenard est allée justement assister à un cours de cuisine pour réapprendre les bons réflexes.
Au musée de la gastronomie d'Athènes, des tables ont été installées dans la petite cour. Ce dimanche matin, Carolina Doriti donne des leçons de cuisine grecque à une trentaine de personnes. La chef détaille le menu.
Nous allons cuisiner plusieurs choses simples mais délicieuses, comme préparer une salade typique de Crète, le dakos avec du pain sec, des tomates concassées, du fromage blanc frais, des capres, des olives et des salicornes. Nous ferons aussi des bourekis de Chania, un autre plat crétois avec des couches de courgettes, de pommes de terre, de tomates et de fromage, le tout au four. C'est comme la moussaka, mais en plus léger.
Pour Carolina Doriti, la cuisine grecque est une cuisine très saine à base de légumes frais et surtout d'huile d'olive, connue pour ses effets anti-cholestérol. À une autre table, Diana Fagoudi, une des participantes, la quarantaine, est chargée du dessert.
Nous râpons les oranges pour obtenir le zeste, et puis nous les pressons et les donnons à la chef pour faire du halva. C'est un dessert traditionnel qu'on fait surtout en hiver. Il y a des amandes dont on grille une partie, de l'huile, du sucre, de l'eau, de la cannelle, des clous de girofle et bien sûr des oranges.
Diana a appris à cuisiner ce type de plat, mais avec deux enfants et un travail, elle fait ce qu'elle peut.
Et oui, comme la plupart des femmes travaillent aujourd'hui, ce n'est plus très facile de rester dans sa cuisine. Et à cause du manque de temps, ce type de régime risque de disparaître.
Assis dans son bureau à Athènes, l'endocrinologue Konstantinos Tsigos rappelle que les conséquences se font déjà sentir. En 10 ans, le poids moyen de la population a augmenté de 5 kilos. Avec les difficultés financières, les Grecs se réfugient dans les matières grasses et les plats tout préparés. Pour lui, la Grèce est tout simplement en train de vivre une mutation qui a frappé il y a quelques années déjà les pays du nord de l'Europe.
Ce problème est arrivé plus tard chez nous, mais sa prise en compte a aussi pris du retard. Je pense que le gouvernement ne s'en préoccupe pas assez en comparaison avec d'autres pays européens. Ils ne perçoivent pas vraiment l'importance de la prévention. La plupart des programmes qui sont développés ici en Grèce le sont grâce à des financements ou des initiatives de l'Union européenne.
Retour au musée de la gastronomie grecque. Konstantinos Matsourdelis, son fondateur, est venu superviser les cours de cuisine. Ce trentenaire estime que la crise a joué un rôle majeur dans ce changement alimentaire. Mais elle pourrait aussi avoir un impact positif.
Les produits importés sont devenus très chers pour les Grecs, car leurs revenus ont diminué. Du coup, les produits locaux sont redevenus attractifs. C'est un long processus, mais quand la crise sera terminée et que la Grèce sera remise sur pied, nous serons plus conscients de nos choix. Nous consommerons plus de produits locaux pour soutenir notre économie et survivre.
Certains sont conscients de l'importance de ce patrimoine. Le régime méditerranéen a été reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO dans 7 pays, dont la Grèce.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité.
Autour de la question.